Bonjour à tous. À différentes époques, dans les différentes civilisations, l'homme a toujours eu besoin de s'arrêter et de réfléchir. Et il a démontré son besoin de sagesse dans n'importe quel domaine de la vie. La preuve en est, c'est que chaque culture a son lot de proverbes. Et Josué nous l'a rappelé lors de son premier message et nous a donné quelques exemples de proverbes que nous pouvons retrouver dans la vie de tous les jours. Par exemple, il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois. Ou bien, qui sème le vent, récolte la tempête. Et un proverbe étranger, dans une bouche close, il n'entre pas de mouche. Et dans la Bible, nous trouvons le livre des Proverbes, qui a été écrit en très grande partie, mais pas uniquement, par le roi d'Israël, nommé Salomon, à qui Dieu a donné une très grande sagesse. Et il a écrit plus de 3000 proverbes. Et la première question que l'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui différencie le livre des Proverbes de la Bible par rapport aux proverbes que nous pouvons trouver dans la vie de tous les jours, que nous pouvons trouver dans les autres cultures. Pourtant, on trouve également des proverbes de bon sens, des vérités qui sont bonnes à apprendre et à appliquer. Eh bien, on trouve la réponse dans le premier chapitre des Proverbes, au verset 1. Ce livre commence par « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël ». Salomon était roi du peuple que Dieu s'est choisi pour se révéler au monde et pour se constituer un peuple d'adorateurs qui dépassera le royaume d'Israël, car Dieu désire racheter un peuple issu de toutes les nations. Et c'est dans ce cadre-là de la révélation qu'il choisit de donner à Salomon toute la sagesse et toute l'inspiration pour écrire une grande partie du livre des Proverbes sur tout un ensemble de sujets que nous pouvons rencontrer au quotidien. Le manger et le boire, la façon dont nous parlons les uns aux autres, les relations familiales et sociales, les affaires, les relations hommes-femmes. Autant de sujets où nous avons besoin de sagesse qui sont connectés à notre vie de tous les jours. Il nous donne des clés pour les mener du mieux possible. Autrement dit, le livre des Proverbes est un livre qui nous permet de savoir ce qu'est l'art de vivre selon Dieu. Car la grande différence finalement, c'est que la sagesse telle qu'on peut la trouver dans la Bible s'appuie pas seulement sur une expérience de vie humaine, mais elle s'appuie sur un principe qui est la crainte de Dieu. Et un petit peu plus loin, au chapitre 1, le livre des Proverbes dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Elle s'appuie sur la personne de Dieu. » Et le passage de Proverbe 3 que nous allons lire maintenant s'inscrit dans ce contexte. Et alors je vous invite à prendre le livre des Proverbes au chapitre 3, le verset 1. Et nous lirons l'ensemble du chapitre. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie, et dans sa main droite, Dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y vont droit, à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va-t'en puis reviens, c'est demain que je donnerai », quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Ce texte que nous venons de lire est découpé en trois parties, et nous avons au début et à la fin une instruction, et au milieu de ces deux instructions se trouve un poème qui nous décrit la bénédiction de la sagesse. Et donc nous verrons ce matin comment la sagesse s'applique dans notre relation avec Dieu et avec notre prochain dans la perspective de l'éternité. Et le premier point que nous allons voir, la sagesse dans notre relation avec Dieu. Cette première instruction nous donne des clés concrètes dans notre relation avec Dieu, des choses que Salomon nous invite à examiner et à faire et qui entraînent des bénédictions dans notre marche avec Dieu. Ce sont des poteaux indicateurs, des principes de vie dans notre marche avec Dieu, dans notre art de vivre selon Dieu. Et donc, on verra trois points dans cette première partie. Et si on relit au verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. » Si on devait résumer ainsi, on pourrait dire que la sagesse nous appelle à être enseignable et transformable. Et en tant qu'auditeur ou lecteur, nous oublions vite. Nous ne retenons pas tout. Et la Bible nous invite à garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire à nous imprégner de la parole de Dieu sans cesse, que ce soit en voyage, que ce soit à la maison, que ce soit par des chants, par des lectures. Ce qui vient de l'extérieur de la parole de Dieu doit nous transformer de l'intérieur. La bonté et la vérité doivent pouvoir se voir et rester attachées à notre être intérieur. Plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est la clé qui nous permet d'avoir de bonnes relations avec Dieu et aussi avec les personnes qui nous entourent. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. C'est une conséquence directe. Alors, quels en sont les bénéfices? Eh bien, Salomon nous le dit ici, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Cela nous rappelle un des 10 commandements que nous trouvons dans le livre d'Exode, Exode 20 au verset 12. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le premier des 10 commandements qui est donné, auquel est associée une promesse. Et on retrouve un principe, un parallèle, puisque honorer des parents implique, entre autres, de leur obéir, de les respecter quand on parle avec eux, de suivre leurs instructions. Et même si l'entente n'est pas toujours facile, elle implique le respect dû au fait qu'ils sont nos parents. Et le respect de l'autorité selon Dieu a pour conséquence directe une vie plus longue et plus de paix. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les parents ont pour rôle d'enseigner et d'éduquer leurs enfants, de les conseiller pour leur éviter qu'ils fassent des choses qui pourraient avoir de grosses conséquences sur leur vie. Eh bien, il en va de même avec Dieu. Ses commandements, ses enseignements sont là pour nous donner des conseils très pratiques afin de nous éviter de prendre le mur. On en revient à un début du livre finalement des Proverbes qui nous est décrit au chapitre 1 pour recevoir des leçons de bon sens, mais aussi pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Ensuite, l'humilité dans notre relation avec Dieu. Au verset 5, on peut relire « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » J'ai entendu il n'y a pas très longtemps un homme politique français important qui a dit « Je ne dois rien à personne car je me suis fait tout seul. » Aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent en avant leur réussite, leur achèvement, les buts qu'ils ont atteints. À ne pas en douter, une personne qui réussit un projet, quel qu'il soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les études, dans le domaine professionnel, dans le domaine artistique ou au sein de la famille, a des capacités pour le mener à bien. Mais en réfléchissant un instant et en se posant quelques questions, on remarque vite que la réussite que l'on peut avoir ne vient pas de nous uniquement. Nous sommes dépendants de beaucoup de choses et de beaucoup de circonstances. Nous sommes avant tout dépendants de notre Créateur, car nous ne venons pas à la vie de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous donne la vie. Nous ne nous éduquons pas nous-mêmes, mais nous recevons une éducation. Nous recevons une instruction en apprenant par exemple à l'école, nous recevons un accompagnement, nous recevons des conseils, quels qu'ils soient. Et en étant un minimum honnête, eh bien nous ne pouvons pas nous dire que nous nous sommes faits tout seuls. Et entre-temps, en traitant le sujet de l'orgueil et de l'humilité, l'apôtre Paul va dire dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» La sagesse, selon Dieu, implique de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de prendre conscience que nous avons besoin de Dieu. Elle nous invite, avant de prendre une décision, à en parler à Dieu, à l'interroger, à le consulter, à lui demander l'intelligence nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Est-ce que c'est une promesse que nous serons en parfaite santé si nous faisons cela ? Je ne pense pas que c'est ce que veut dire ce verset. Mais une chose est sûre, cela nous évitera bien des détours et des chemins tortueux et sinueux. Et le troisième point que je souhaiterais voir avec vous ce matin dans la sagesse de notre relation avec Dieu, c'est la fidélité et la loyauté dans notre relation avec Dieu. Et au verset 9, nous pouvons relire ensemble, Salomon écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père, un enfant qui a sa faveur. » Et ces versets font référence à la pratique des Israélites qui étaient appelés à offrir à Dieu la première et la meilleure partie des récoltes. Dieu souhaite recevoir de notre part non pas ce qui reste à la fin du mois, mais la première partie. Et cette démarche signifie que Dieu souhaite être mis à la première place dans notre vie. Et qu'on n'y mette pas nos biens, nos ressources ou notre argent. Car finalement nous ne sommes que les gérants de ce que Dieu nous confie. Et Dieu souhaite qu'en lui donnant, nous lui confions également nos biens matériels pour que ceux-ci ne viennent pas contrôler nos vies. La récompense est ainsi formulée, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Alors, est-ce que ce verset signifie que la clé de la richesse matérielle se trouve là? Que si je donne à Dieu, il me donnera encore plus et que je peux ainsi m'enrichir? Je ne pense pas que c'est ce que ce passage veut dire, et ce n'est certainement pas non plus ce que la Bible enseigne. Mais malheureusement, ce passage et d'autres ont été repris à tort et à travers dans certaines églises pour inciter les gens à donner en leur promettant de sortir de la pauvreté. Dieu promet en revanche de subvenir à nos besoins en lui confiant tout. Nous sommes invités à faire confiance en Dieu, à lui exprimer ce dont nous avons besoin. Et nous avons aussi cette assurance que Dieu subviendra en tout. Et enfin, on peut noter la progression de cette première partie de ce passage. Les premiers versets de ce chapitre se concentrent sur la crainte de l'Éternel, et à la fin de cette première instruction, eh bien, nous avons une belle récompense. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père l'enfant qui a sa faveur. Alors bien souvent, quand on lit ce passage, on peut voir aussi Dieu comme un père dur, sévère, usant de discipline, manquant d'amour. Mais cependant, Dieu reste patient, aimant. Il use de bonté, de pédagogie envers nous. Il ne nous reprend pas comme nous pouvons parfois durement reprendre nos enfants, mais au contraire, il use de patience, de douceur. C'est une véritable grâce. Et même si parfois il doit nous reprendre et nous punir, ce n'est pas dans le but de nous faire souffrir, mais c'est parce qu'il est réellement attaché à nous, comme un père envers l'enfant qui a sa faveur. Voilà un grand privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Alors, après cette première instruction, nous trouvons un poème qui décrit la bénédiction de la sagesse. Et ce poème commence tout simplement au verset 13 par le mot « heureux ». Ce passage a été qualifié de béatitude de l'Ancien Testament à cause des similitudes que nous pouvons y trouver dans ce texte avec les béatitudes que Jésus a prononcées dans l'évangile de Matthieu. Et les béatitudes dans la Bible nous présentent ce que nous pouvons appeler le bonheur, mais en réalité ce terme de bienheureux ou heureux est utilisé par les sages pour décrire un état beaucoup plus profond de bien-être intérieur de l'âme, mais qui vit simplement comme Dieu l'a voulu au départ. Alors je vous propose d'aller au verset 13 et de relire ces quelques versets. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. La sagesse nous est décrite ici comme plus précieuse que l'argent, que l'or, que des perles, ou que tout ce que nous pourrions désirer sur la terre. Que ce soit un compte en banque bien fourni, une belle propriété, un yacht, de beaux longs et luxueux voyages, ou que sais-je. Alors, comment l'auteur peut-il affirmer cela? Eh bien, la clé se trouve au verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et je pense que l'auteur de ce texte ici fait directement référence à l'arbre de vie qui se situait dans le jardin d'Éden, mentionné dans le livre de la Genèse. Cet arbre dont l'accès a été coupé à Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Cet arbre qui, s'ils en avaient mangé le fruit, leur aurait permis de vivre éternellement. Ceux qui s'attachent ainsi à la sagesse sont heureux et possèdent la vie éternelle. Et la sagesse, vous voulez, je pense que vous aurez compris où je veux en venir, elle a été personnifiée. Elle a été incarnée de manière parfaite, sans défaut, sans faille, par la seule personne qui était pleinement Dieu et pleinement homme à la fois, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par qui et pour qui tout a été créé. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Revenir à la sagesse, c'est revenir à Dieu. C'est revenir à Jésus-Christ qui veut offrir à chacun la vie éternelle, une vie profondément bienheureuse en sa présence. Et c'est pour cela que Salomon parle de la sagesse comme étant plus précieuse que l'or et l'argent. Car quoi de plus précieux et de plus important que la vie éternelle ? Rien ici-bas sur terre ne peut être comparé à la vie éternelle, même pas les choses les plus précieuses sur terre, car finalement elles prendront fin, toutes et sans exception. C'est pour ça que Salomon nous dit qu'une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Ces fruits de la sagesse se verront dans l'éternité, mais finalement la sagesse commence ici-bas, par la crainte de l'Éternel. Et enfin, nous arrivons au troisième et dernier point, la sagesse dans notre relation avec notre prochain. Et après avoir remis en perspective les bénéfices de la sagesse, eh bien, Salomon continue et nous donne des avertissements et des conseils qui sont orientés vers les relations que nous avons avec notre prochain. Dans une perspective de restauration des relations et dans cette perspective de la vie éternelle. Et il nous donne des conseils pratiques et pleins de bon sens. Mais avant cela, Salomon insiste pour que nous suivions les conseils qu'il nous a donnés juste avant. Il nous rappelle que notre protection, notre assurance se trouve en Dieu, quoi qu'il arrive. Et le premier conseil que nous pouvons trouver par rapport à nos relations avec notre prochain, eh bien se trouve au verset 27. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens, c'est demain que je donnerai quand tu as de quoi donner. Autrement dit, sois généreux et aide ton prochain quand tu en as l'occasion, quand tu en as la possibilité. Cela nous rappelle certainement une parabole, la parabole du bon samaritain que Jésus a racontée dans Luc 10. Un homme se fait attaquer sur le chemin. Il est dépouillé puis laissé presque pour mort au bord de la route. Et trois personnes vont passer devant elle, deux vont l'ignorer, alors qu'elles auraient pu au minimum lui venir en aide. La troisième personne, le bon samaritain, va l'aider, l'emmener à l'auberge pour la faire soigner et la restaurer. Ces trois personnes avaient chacune, selon leurs moyens, la possibilité de l'aider, mais une seule des trois personnes l'a fait. Et cela peut se traduire de manière concrète par donner à manger à une personne que nous rencontrons et qui a faim et qui ne peut peut-être pas s'acheter à manger. Par aider une personne fragile, par exemple, à porter sa valise qui est lourde durant un voyage lors d'une descente ou d'une montée dans un bus ou un train. Ça peut être celui d'aider une personne qui est tombée à se relever. Des exemples comme ceci, eh bien, nous en rencontrons peut-être presque quotidiennement. Et le deuxième exemple, la deuxième instruction que nous donne ici Salomon, eh bien, c'est de rester en paix avec les autres. Au verset 29, nous pouvons lire « Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. » Un proverbe plein de bon sens, je dirais, qui nous rappelle l'instruction de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 18. « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ne pas chercher querelle pour rien, ne pas se disputer pour des broutilles, mais au contraire, rechercher la paix, la réconciliation quand cela le nécessite. Effectivement, même dans l'Église, nous savons que nous pouvons être blessés, nous savons que nous pouvons blesser, nous savons que nous pourrons encore être blessés par le futur, nous savons que nous pourrons blesser à notre tour par le futur. Mais finalement, notre privilège en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir se pardonner, se réconcilier. Et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est notre privilège. Et ce conseil est complémentaire de celui que nous venons de voir et nous invite à ne pas chercher dispute avec la personne que nous venons juste d'aider. Ce serait un non-sens. Et enfin, le troisième conseil que nous donne Salomon dans nos relations avec notre prochain, au verset 31. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour l'homme, pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Ne pas être jaloux des personnes choisissant de se détourner de la sagesse, choisissant de ne pas suivre Dieu et à qui pourtant tout semble réussir. Et c'est finalement un petit peu ce qu'a fait comme constat David au psaume 10. Nous pouvons aussi certainement faire le même constat que David et Salomon, mais n'oublions pas une chose, c'est que Dieu use de patience et de bonté. Il laisse tout le temps afin que tout le monde puisse avoir la possibilité de venir à lui et de se repentir de ses péchés. Mais les choix que nous avons à faire, les choix que nous faisons, sont à faire à la lumière de l'éternité. C'est le seul critère durable à prendre en compte. Dieu nous invite à choisir la sagesse, à choisir de le craindre, à choisir finalement la gloire qu'il nous propose. Alors, pour résumer, nous avons vu ce matin que la Bible nous invite, dans notre relation avec Dieu, à être enseignable et transformable, à être humble, à être fidèle et loyal à lui. Elle nous invite, dans notre relation avec notre prochain, à être généreux, à lui venir en aide quand nous le pouvons, à rester en paix avec les autres et à ne jalouser personne. Et je terminerai par ce que dit Salomon au verset 18, en parlant de la sagesse. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen.